Est-ce que vous connaissez le planning familial ?
Non. Non ?
Est-ce que vous connaissez le planning familial ?
Oui, oui.
Vous connaissez leur action ?
Oui. Je crois qu'ils s'occupent des personnes...
Est-ce que vous connaissez le planning familial ?
De la violence ?
Pas du tout, non.
Voilà, ils conseillent les...
Non.
Les gens.
Vous connaissez
les
pas
leur
action ?
Ils donnent des informations, je sais pas. Si...
Pas vraiment.
Voilà. Je crois que c'est
Est-ce que
aussi.
Vous considérez comme féministe ?
Pas vraiment, non. En soi, pas vraiment. Je pense que féministe, c'est plutôt une façon de
Est-ce
penser.
Est-ce que vous considérez comme féministe ?
Pas entièrement, mais je revendique quand même beaucoup de choses importantes pour les femmes. Notamment pour le travail. Il y a des gros soucis au niveau du travail, au niveau de... C'est l'égalité, quoi. Il n'y a pas de... C'est souvent les femmes qui restent à la maison pour garder les enfants. Voilà, le droit des femmes.
Féminisme, nom masculin du latin femina, femme. Définition Larousse. Mouvement militant pour l'amélioration et l'extension du rôle et des droits des femmes dans la société. Attitude de quelqu'un qui vise à étendre ce rôle et ses droits des femmes. Quand on a grandi dans une famille au modèle traditionnel, de culture catholique, ce mot, ce gros mot, féminisme, on ne l'entend jamais. Le modèle patriarcal, il est ancré et accepté par tous et toutes comme la norme. À l'adolescence, on se rebelle un peu, sans vraiment savoir pourquoi. L'égalité, cela nous semble simplement naturel. Et puis tout cela vient petit à petit. Un mode de vie différent s'impose. Un modèle familial, sexuel, culturel, politique, professionnel, spirituel différent. On ne se pose pas vraiment la question. Tout s'assimile très vite et nous semble normal au sein de notre microcosme. Et puis on entend les vieilles questions qu'on croyait enterrées qui ressurgissent. Les droits, encore jeunes, menacés. Et puis je découvre que le planning familial fête ses 60 ans dans ma ville. Grenoble, avril 2016. C'est l'étincelle. Cet événement m'oblige à regarder mon engagement en face. Depuis quand est-ce que je me dis féministe ? D'où vient cet engagement ? Comment peut-on être femme et ne pas se considérer féministe ? Comment est-ce qu'on le devient ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Pourquoi en a-t-on besoin ? Je pars à la rencontre de féministes, de militantes à Grenoble, à Paris, à Bruxelles. Je redécouvre l'histoire de pionnières. Mais commençons par le commencement. Virginie, Virginia, Simone et moi, première partie, histoire et transmission.
En 1956, création de l'association Maternité Heureuse dans le but d'informer les femmes sur la contraception et de faire modifier la loi de 1920 qui l'interdit en France.
Véronica Noceda, coordinatrice nationale du planning familial en 2016.
Cette date est bien sûr une date clé qu'on fête aujourd'hui, donc les 60 ans du planning. Après, je pense qu'il faut se remettre dans le contexte. Ce nom aujourd'hui nous fait un petit peu sourire, maternité heureuse. Donc évidemment, tout était axé autour du choix de la fécondité, de la maternité. Les choses, fort heureusement, ont changé depuis.
1958, l'association devient membre de la Fédération internationale pour la planification familiale, IPPF. 1961. Ouverture dans la quasi-clandestinité du premier centre de planning familial à Grenoble.
Alors à Grenoble en 61, quand on a ouvert notre permanence, on a donné des informations. Tout de suite, les gens, les femmes, mais aussi les couples, nous ont dit où c'est qu'on peut trouver tout ça, la contraception.
Françoise Laurent, ancienne présidente du planning familial, colloque à l'occasion des 60 ans du planning au Sénat, 4 mars 2016.
Donc en 61, déjà 61, 62, et c'était des diaphragmes et de la gelée spermicide. Alors tout ça, nous, on commandait tout ça collectivement, en valise, en machin, hein, en Angleterre. Mais à plusieurs reprises, je ne sais pas pourquoi, la gelée spermicide a été piquée à la douane. Donc, les Grenoblois se sont dit, on va se la fabriquer. Donc, il y avait un chimiste. Il a commencé à fabriquer, mais il a fallu aller présenter ça au comité technique de l'IPPF qui validait que c'était une bonne formule, que c'était bien un contraceptif, etc. Donc, on l'a eu au bout de, je crois, 18, enfin, un an, mais ils nous ont fait passer un petit examen. Mais on était contents parce qu'on avait marqué sur les boîtes d'Alpagel, ça s'appelait. oui, Alpagel, oui. Validé par l'IPPF.
Alpagel, pour lui, pour elle. Dans les dernières années de sa vie, moi, j'ai très souvent vu le docteur Pierre Simon, qui était un des fondateurs du planning familial avec Marie-Andrée Lagro-Abeyalé et Evelyne Sulero et d'autres.
Jeannine Mossieu-Lavaux, chercheuse au CNRS.
Et il me racontait évidemment des tas d'histoires sur toute cette évolution des mœurs dans laquelle il avait été acteur, partie prenante, animateur, etc. Et il me racontait que, en tout cas pour ce qui concerne Paris, au tout début, donc quand le premier centre a été ouvert en 1961, après celui de Grenoble, donc il fallait pouvoir répondre aux demandes des femmes qui venaient pour avoir des diaphragmes. Alors, à l'époque, je sais pas, ça se passait peut-être pas tout à fait la même chose à Grenoble, mais en tout cas, moi, je peux dire comment ça se passait à Paris. Quand on voulait avoir un diaphragme, ça voulait dire qu'on allait au planning familial, qui nous envoyait voir un gynécologue qui prenait nos mesures. On commandait le diaphragme en Angleterre, individuellement. C'était pas des valises qui arrivaient et on nous les fournissait. Il fallait commander en Angleterre en envoyant un mandat sur lequel il fallait surtout pas mettre diaphragme, mais commande de livres. Et puis, on commandait la gelée spermicide à Grenoble. Bon. Et donc, qu'il avait fallu que le planning, en tout cas à Paris, fasse, et à Grenoble, je suppose que c'était pareil, il a fallu former les médecins à prendre des mesures des femmes pour la commande des diaphragmes. Ça ne s'improvise pas, ça doit s'apprendre. Alors comment on fait? On ne va pas dans la rue en disant « Mesdames, vous ne voulez pas venir, qu'on essaye sur vous ». Comme ça, les choses n'auraient pas forcément marché. Donc, les médecins qui venaient se faire former là, bénévolement, etc., ont fait appel aux prostituées du quartier qui sont venues prêter leur utérus pour que les médecins apprennent à prendre des mesures.
Le planning avait donc une dette envers les prostituées. En se prononçant en 2011 contre la pénalisation de leurs clients, c'est un juste retour des choses. La boucle est bouclée.
1967, loi Neuwirth autorisant la délivrance de contraceptifs sous prescription. Je pense que ça, c'est une des dates clés avec la loi sur l'avortement de 1975. J'ai toujours dans la mémoire, quand je lis ces dates, les films de Carole Roussopoulos quand elle allait dans la rue et filmait ses cortèges de femmes qui se battaient justement pour ça. Et j'ai toujours le souvenir de cette vieille dame qui n'est pas dans le cortège, qui est sur le côté. Et elle va l'interroger et notre préjugé, notre regard un petit peu normatif anticipe que cette vieille dame, parce qu'elle est vieille, va gueuler certainement sur les manifestantes et va dire « Ah, mais c'est une catastrophe, le monde va à la dérive ». Et bien non, cette vieille dame est très contente de voir ces femmes se mobiliser parce que je pense qu'on ne s'imagine pas ce que c'était de ne pas avoir accès à la contraception, de pas justement pouvoir choisir et d'être contraint à avoir des enfants que finalement on ne désirait pas forcément, en tout cas un nombre d'enfants qu'on ne désirait pas forcément.
Les films de Carole Roussopoulos, je les ai découverts assez récemment.
Putain, Delphine, série que j'adore.
La première fois que j'en ai entendu parler,
j'adore.
Je crois que c'est mon amie Émilie qui l'avait évoqué.
C'est dans le film de Carole Roussopoulos.
Au détour d'une conversation sur Delphine Seyrig.
Le Scoum Manifesto.
Scoum Manifesto.
Avec le bruit de la machine à écrire. Il est trop bien ce film.
Elle m'a aussi souvent parlé de Mireille, sa maman, qui avait fait partie du MLF.
Ce que j'avais dit à Isabelle, c'est que...
J'ai eu envie de la rencontrer et de les écouter, toutes les deux.
C'est que quand tu me... Le peu que tu m'avais raconté des années 70, du MLF et tout ça, ça m'avait toujours beaucoup touchée. Et que, je sais pas, bizarrement et naturellement, me suis approprié cet héritage-là.
Oui,
j'étais, tu vois, par exemple, je sais pas, j'allais à une projection d'un film de Carole Roussopoulos ou je sais pas quoi, et j'étais tout de suite touchée, mais parce que je sais que c'est tu vois, c'est une partie de ton histoire.
Oui, parce que mon implication dans le féminisme, c'est quelque chose de vécu. Dans le sens où moi, je fais partie quand même d'une génération dont les mères ont connu vraiment beaucoup de difficultés à exister par elles-mêmes. Et c'était le cas de ma mère. Et
quand je me suis moi-même un petit peu affranchie de mon éducation, ben, ça a été très, très péniblement parce que j'étais enfermée dans cette éducation de province, une éducation religieuse, et puis aussi l'expérience d'une mère qui n'avait pas vraiment vécu ce qu'elle avait réellement envie de vivre. Et donc moi, je commençais aussi un petit peu comme ça, c'est-à-dire que je me sentais pas indépendante non plus. Les relations sexuelles, c'était toujours des choses interdites, compliquées. Bon, et moi, ça m'a amenée au féminisme parce que je suis allée aussi. J'ai vécu cette période très difficile où moi, le planning familial, je connaissais pas. Je ne prenais pas la pilule parce que à l'époque, ça ne faisait pas non plus partie de l'existant. Et donc, ben voilà, j'ai subi les conséquences de tout ça. C'est-à-dire que j'ai été enceinte et j'ai voulu avorter. Et cet avortement a été quelque chose d'extrêmement douloureux, de très, très, très difficile. Et ça m'a amenée vers le féminisme.
On ne l'est pas féministe, on le devient.
Vous voulez savoir quand je me suis déclarée féministe?
Jeannine Monsieur Lavaux.
Alors déclarée, je crois jamais j'ai fait de déclaration solennelle en disant « Ah ben écoutez, aujourd'hui, depuis aujourd'hui, je suis féministe, c'est la bonne nouvelle, avis aux populations ». Non, ça ne s'est pas fait comme ça. Ça s'est fait de façon, je dirais à la fois naturelle, progressive et puis évidente. Alors, si j'essaye, parce qu'on m'a posé souvent la question, comment finalement vous êtes devenue féministe, et pendant un certain temps, je disais, bah, écoutez, il y a, je pense quand même, deux raisons, on peut dire objectives, hein, avec des guillemets, qui sont que dans ma famille, les femmes ont toujours travaillé, alors aussi bien sûr ma mère, mais aussi mes deux grands-mères, mes tantes et aussi mes arrière-grands-mères. Donc, c'était quelque chose dans la famille qui était normal, naturel, et il n'y avait pas de discours du genre « tu te marieras, tu auras des enfants ». C'était le travail et puis la vie comme elle venait, quoi. Donc, il y avait ça. Et puis, il y a eu un petit peu plus tard, c'est-à-dire quand j'ai eu 21 ans, j'ai subi un avortement clandestin au cours duquel, parce qu'à l'époque, évidemment, c'était interdit. C'était avant 75. Hein. Donc, j'ai failli mourir à deux reprises au cours de cet événement assez dramatique. Et c'est vrai que j'en suis sortie en me disant, mais est-ce que finalement la vie des femmes, c'est une horreur pareille tout le temps? Donc ça faisait, disons, des bonnes raisons. Mais comme j'ai retravaillé depuis sur l'histoire de ma famille, l'histoire de mes parents, que j'ai écrite notamment pour mes enfants, il y a des tas d'autres choses qui sont revenues, et notamment une, je dirais, qui est peut-être à l'origine, en tout cas, moi je la vois comme ça, c'est quand j'avais, je dirais, 10 ans à peu près, j'ai passé quelques jours de vacances chez une de mes tantes, qui était institutrice, et elle était la seule personne de la famille qui, comme moi, s'intéressait à la généalogie, et donc gardait des choses, et elle avait notamment le testament d'un de nos ancêtres, testament qui devait dater de la fin du XVIIIe siècle, quelque chose comme ça. Et alors, cet ancêtre en question, c'était un riche paysan qui possédait l'intégralité pratiquement du village de montagne, et il avait 9 enfants, et il a fait à un moment son testament que j'ai pu lire, et dans ce testament, il distribuait ses biens, donc ses champs, ses bois, enfin tout ce qu'il avait, ses maisons, entre ses 9 enfants et à sa femme, donc qui avait porté les 9 enfants, les avait élevés, etc. Il léguait, et vraiment, je vous lis textuellement, « la jouissance d'une chambre est le fruit de deux pommiers.
Alors, moi, j'avais 10 ans à l'époque et je m'imaginais, ça m'avait complètement glacée parce que je m'imaginais une pauvre petite vieille dans une soupente en train de se nourrir de pommes, de manger ses pommes. Et je me disais, mais c'est pas possible, comment on peut faire des choses pareilles? Et je pense que ça a été peut-être la petite graine, si vous voulez, qui après a donné d'autres choses, mais ça a été peut-être le premier contact avec le sentiment d'une injustice à l'égard des femmes qui me semblait vraiment irrecevable.
Et pour moi, c'était quoi la petite graine? Je n'arrive pas à me souvenir.
Moi, je savais que si j'en parlais aux parents, ça allait complètement me coincer. Ça allait, complètement changer ma vie. J'étais tellement heureuse de vivre ma vie d'étudiante, très, très libre, très... Et avec Christophe, je peux pas dire que lui, de toute manière, ne voulait pas d'enfant, mais moi non plus, j'en voulais pas.
Et t'avais quel âge?
J'avais 20 ans.
Vous avez été ensemble combien de temps?
On a été ensemble 3 ans.
Ouais, donc t'étais jeune.
Oui, 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 bien sûr.
Et du coup, en fait, pour toi, la chronologie, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que t'étais à Paris, il y a eu cet avortement qui a eu lieu quand?
Parce que... Qui a eu lieu en mai 68, le jour de mon anniversaire, le 19 mai 1968, avec tous les événements qui se passaient à Paris, dont forcément j'entendais parler... que je ne pouvais pas suivre. Christophe et Jean-Michel allaient aux manifestations. Et moi, j'avais qu'une préoccupation, c'était surtout que j'arrivais pas à trouver de médecin. J'ai eu un mal fou, j'ai eu beaucoup, beaucoup de difficultés. Je n'osais pas en parler, c'était interdit. Je pouvais pas me permettre d'aller avorter... ni en Suisse, ni en Belgique, ni... Enfin, c'était en Suisse à l'époque, en Angleterre. Voilà, c'était en Suisse, en Angleterre. Mais je pouvais pas le faire parce qu'on rentrait tous les week-ends à Montargis, dans la famille. Et j'avais qu'une peur, c'était que les parents l'apprennent. En même temps, il a fallu que j'en prenne de l'argent parce que l'avortement, c'était très, très cher. Enfin, là, j'ai peut-être pas envie de m'étendre là-dessus, mais... ce qui est sûr, c'est que l'avortement, je l'ai fait. J'étais sûrement enceinte de 3-4 mois et c'était vraiment à la limite. J'ai fait une hémorragie, mais je suis sortie le jour même. Et puis je suis allée fêter mon anniversaire avec Christophe. À l'époque, au drugstore de l'Opéra.
Et moi, je me souviens que tu m'avais dit que c'était... C'est un médecin qui a accepté de pratiquer ça à Paris, de faire des avortements clandestins.
Qui paraît-il était connu dans tout Paris, avec moi qu'il ne connaissait pas.
Oui, voilà.
Et qui était installé dans les quartiers chics. Quand je suis allée le consulter, vraiment, c'était un médecin des riches. Hein. Je crois que c'était du côté de la rue de Courcelles, de l'avenue de Courcelles. Quand il m'a consulté, il m'a simplement donné une date, mais on ne m'a pas parlé de grand-chose. Hein, ouais, je veux dire, ça a été très, très expéditif. Et ensuite, c'est par téléphone. J'ai fait comme si je louais un appartement. Et on m'a fixé, si tu veux, le tarif d'une location d'appartement pour le tarif que j'allais payer pour cet avortement.
Donc c'était un peu une conversation codée.
Oui, c'est ça, complètement.
Pour avoir un tarif.
C'est ça. Et puis j'avais honte d'être enceinte, de désirer avorter. Tu te cachais, tu pouvais pas en parler à tous tes amis, je parlais intimement Jean-Michel, mon frère, mais bon, lui, là, il connaissait pas de réseau. Je me souviens plus par qui j'ai eu cette adresse. C'est curieux, tu vois. C'est, comment on peut oublier des choses. Puis j'avais emprunté de l'argent à l'associé de mon père aussi. Pour rembourser cet avortement, j'avais travaillé, j'avais gardé des enfants, en plus que, enfin, en même temps que j'avais mes études. Enfin, tu vois, c'était quand même quelque chose qui m'avait tellement préoccupée et longtemps.
Parce c'était que j'ai secret, mis... quoi.
C'est, le, voilà, secret, le secret, les choses cachées.
La honte aussi.
La honte, et puis de faire comme si, comme si tout était vis-à-vis des parents. Qui ne soupçonnait absolument rien.
Ouais, ouais, ouais.
Par moment, j'avais...
Oui, des choses aussi importantes de ne pas pouvoir...
C'est ça.
Un million de femmes se font avorter chaque année en France. Elles le font dans des conditions dangereuses en raison de la clandestinité à laquelle elles sont condamnées. Alors que cette opération, pratiquée sous le contrôle médical, était plus simple. On fait le silence sur ces millions de femmes. Je déclare que je suis l'une d'elles, je déclare avoir avorté. De même que nous réclamons libre accès aux moyens anticonceptionnels, nous réclamons l'avortement libre. Avortement, mot qui semble exprimer et limiter une fois pour toutes le combat féministe. Être féministe, c'est lutter pour l'avortement libre et gratuit. Avortement, c'est une affaire de bonne femme. Quelque chose comme la cuisine, les langes, quelque chose de sale. Lutter pour obtenir l'avortement libre et gratuit, cela a l'air dérisoire ou mesquin.
Puis alors après, dans le contexte politique, il y a eu le manifeste des 363.
Oui, que salope, j'ai pas...
Ben, que toi, tu
n'as pas voulu signer.
Oui, voilà. Et ça, c'était en quelle année? C'était un...
Parce que j'étais trop concernée.
Ah ouais, voilà. Ouais.
Trop concernée dans le sens où je craignais encore que mon père la prenne. Par exemple, son associé, ben j'ai appris quand même que l'argent qu'il m'a donné, ben il l'avait pris quand même dans la caisse commune
de la pharmacie.
De la pharmacie, parce que j'ai su par mon père après, plus tard, qu'il y avait eu de l'argent qui avait disparu et que d'ailleurs il s'est séparé de cet associé.
La complexité des émotions liées à la lutte pour l'avortement indique avec précision notre difficulté d'être. Le mal que nous avons à nous persuader que cela vaut le coup de se battre pour nous. Il va de soi que nous n'avons pas comme les autres êtres humains le droit de disposer de notre corps. Pourtant, notre ventre nous appartient. L'avortement libre et gratuit n'est pas le but ultime de la lutte des femmes. Au contraire, il ne correspond qu'à l'exigence la plus élémentaire. Ce sans quoi le combat politique ne peut même pas commencer.
Donc, signer ce manifeste, je me suis dit, il va voir mon nom, il va l'apprendre, il va faire peut-être une relation. Je craignais pire. Toujours regretté de ne pas avoir signé ce manifeste.
Mais tu connaissais d'autres personnes qui avaient signé, hein, justement.
Ben, Lydie avait signé.
Alors qu'elle n'avait pas avorté.
Voilà.
Voilà, hein, c'est ça.
C'est ça.
Ouais, ouais.
Alors que moi, qui avais été tant marquée par ce... Et qui était au MLF aussi, en grande partie, pour ces raisons-là, en premier pour ces raisons-là, si tu veux. J'avais toutes les raisons de signer. Et c'est vrai que ne pas être dans ce manifeste, je regrette beaucoup.
Il est de nécessité vitale que les femmes récupèrent et réintègrent leur corps. Elles sont celles de qui la condition est unique dans l'histoire. Les êtres humains qui, dans la société moderne, n'ont pas libre disposition de leur corps. Jusqu'à présent, seuls les esclaves ont connu cette condition. Le scandale persiste. Chaque année, 1,5 million de femmes vivent dans la honte et le désespoir. 5 000 d'entre nous meurent. Mais l'ordre moral n'en est pas bousculé. On voudrait crier. L'avortement libre et gratuit, c'est. cesser immédiatement d'avoir honte de son corps, être libre et fière dans son corps, comme tous ceux qui jusqu'ici en ont eu le plein emploi. Ne plus avoir honte d'être femme. Un ego qui fout le camp en petits morceaux. C'est ce qui éprouve toutes les femmes qui doivent pratiquer un avortement clandestin. Manifeste des 343, lu par Marcel Monet.
Organisation de voyage en Angleterre pour des femmes désirant avorter. Pratique d'avortement dans la clandestinité dans les centres d'accueil du planning. Participation à la création du MLAC, mouvement de libération de l'avortement et de la contraception.
Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'au sein du planning, qui est encore aujourd'hui un mouvement très intergénérationnel, c'est un mouvement, certains disent vieillissant, mais finalement, moi, je me rends compte, là, il y a quand même plus que 130 délégués, il y a quand même beaucoup de jeunes femmes qui sont impliquées aujourd'hui au planning. Donc, il y a quand même une transmission qui est là. Donc, ça, c'est très intéressant. Et on a en même temps la possibilité d'écouter le témoignage direct de femmes qui ont pratiqué ces avortements clandestins, qui ont participé effectivement à la création du MLAC. Le MLAC n'était pas, entre guillemets, juste un mouvement qui plaidait pour la dépénalisation de l'avortement. C'était un mouvement qui a essayé aussi de démédicaliser et de s'approprier les techniques. Il y avait des ateliers pour finalement apprendre à pratiquer, sans être médecin, l'avortement sur autrui, voire sur soi-même. Donc c'était bien sûr le fruit de cette époque-là, les années 70, mais je pense que ça peut encore nous inspirer aujourd'hui pour voir comment finalement on peut s'approprier aussi les technologies qui peuvent être la source d'une émancipation, d'une libération.
Moi ensuite, je continuais à quelque part à mal vivre cet avortement parce que j'avais des séquelles, j'avais des problèmes aussi, si tu veux, de métrite, vraiment des problèmes de santé dont je n'osais pas parler même au médecin. Par exemple, quand j'allais chez mon médecin, je ne lui disais pas que j'avais avorté. J'en ai pas parlé. Donc en même temps, c'était, tu vois, parce que j'avais quand même toujours des problèmes de salpingite. Enfin, vraiment, je me suis traînée des soucis de santé. Et donc...
Et alors du coup, oui, l'avortement, c'est sûr que ça a été un truc assez difficile quand même, marquant, difficile. Et finalement, alors après, quelques années après, il y a eu le MLF. Il y a une ou deux photos de presse.
Oui.
Où tu es dans les manifestations du MLF.
Oui, la grande.
Alors, c'est sûr que ça, c'est touchant. Et puis, c'est incroyable de voir ces photos de toi avec les cheveux ultra longs.
Lisons nos entraves, debout, debout, debout.
J'étais étudiante, bien sûr. Hein, j'avais 18 ans et demi, 19 ans. Je commençais médecine et j'étais en colocation.
Daniel Gaudry, gynécologue, ancienne membre du Bureau national du planning.
Et j'étais avec une enseignante qui avait un tout petit peu plus âgée que moi et qui s'est retrouvée enceinte parce que elle, son petit copain, l'avait pas emmenée au bon endroit, quoi, on va dire. Et elle a avorté clandestinement. Moi, j'ai pas pu l'aider parce que à ce moment-là, j'étais effectivement deuxième année de médecine. On n'était pas encore dans les hôpitaux à ce moment-là. Et j'ai vu tout ce que ça entraînait pour elle, des complications épouvantables. Je n'ai pas pu vraiment l'aider et ça m'a vraiment navrée. Et cette histoire personnelle, au milieu de mon engagement qui était à l'extrême gauche, même très extrême et très spontanéiste, on va dire, où je pouvais constater un certain machisme quand on construisait le parti marxiste-léniniste idéal et que les problème des femmes, des mères célibataires intéressait peu, hein, à ce moment-là, l'extrême gauche, la droite non plus, mais enfin bon, je veux dire l'extrême gauche non plus. Donc là, je me suis un peu tournée vers donc cette analyse qui n'était plus une analyse uniquement de classe, mais aussi que les femmes étaient opprimées d'une façon particulière. Et quand même, parmi les groupuscules d'extrême-gauche, un certain nombre pouvaient avoir des réseaux pour l'avortement. Alors, comme j'avançais dans mes études, j'étais maintenant dans les services hospitaliers et j'avais accès à un certain nombre de matériels, dont les sondes à oxygène, mais qui étaient stériles. Et j'étais invitée par ces groupuscules à poser des sondes, de façon gratuite, bien entendu, et à titre militant. Donc, on posait une sonde et ensuite, on envoyait directement ces femmes, en particulier sur Paris, dans un établissement qui était dans le 11e arrondissement, et qui les prenait en charge parce que la sonde était posée. L'avortement, donc, était interdit, mais les complications de l'avortement étaient prises en charge et étaient autorisées, bien sûr. Donc, et là, elles étaient accueillies de façon... à peu près respectueuses de leur personne. Et c'était là où, effectivement, avant les mouvements organisés, c'était un circuit que nous utilisions. Et puis après, bien entendu, il y a eu l'organisation, grâce au mouvement féministe, du mouvement comme le MLAC, qui, là, nous a permis alors, d'apprendre aussi à faire les aspirations. Et ça, c'était important. Alors là, je rends hommage à celle qui m'a formée, qui s'appelle Annie Bureau, qui malheureusement nous a quittés également. Je l'ai suivie de Paris 15e, dans un lieu non médicalisé, je dois dire, à ce moment-là. Et elle m'a appris la méthode Karman.
L'aspiration à la seringue, dite méthode de Karman, est pratiquée jusqu'à la 6e semaine d'aménorrhée par le moyen d'une sonde en plastique semi-rigide de 4 à 8 mm de diamètre.
Les femmes étaient extrêmement entourées à ce moment-là quand elles avortaient, puisque c'était l'époque où l'avortement n'était pas réservé aux médecins. Il n'y avait pas de loi et on prônait que toutes les personnes formées, quelle que soit leur origine, j'allais dire, pouvaient faire des aspirations. Des gens comme Geneviève Stiermann, qui n'a jamais été médecin, ni sage-femme, ni infirmière, faisaient des avortements. C'était gratuit et c'était bien.
Tiens d'ailleurs, j'ai récemment appris que c'est dans l'appartement de Delphine Seyrig, par ailleurs signataire du manifeste des 343, qu'en août 1972, Harvey Karman a fait la première démonstration de sa méthode d'interruption volontaire de grossesse devant des militantes du MLF et des médecins.
On a monté un groupe MLAC dans le Val-de-Marne. J'étais toute jeune, j'étais sur le terrain et dans la pratique. Et dans le Val-de-Marne, on a fait des avortements dans une rue merveilleuse où, en face de l'appartement qui nous était prêté par quelqu'un, un sympathisant, eh bien, il y avait une clinique d'accouchement qui s'appelait Les Cigognes. C'était une pratique qui était, moi je trouve, merveilleuse dans le sens où les femmes participaient vraiment à leur avortement et les militants et militantes qui étaient présentes les accompagnaient vraiment avec, j'allais dire, une solidarité, une empathie, c'était l'avenir, quoi. On était porté par un mouvement extrêmement positif et plein d'énergie. On pouvait rêver à une loi parfaite qui n'a pas été du tout celle de 75, hein, mais on en discutait beaucoup, on refaisait le monde, évidemment, avec une égalité des femmes et des hommes. Le vécu de ces femmes était extrêmement positif. Elles repartaient de là avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'énergie. Et c'était loin d'être considéré à ce moment-là pour elles comme une situation d'échec, comme on peut l'entendre à l'heure actuelle encore quand on parle d'avortement. Et c'était vraiment un vent de liberté qui soufflait et auquel on participait. Et même si c'était interdit, on s'en moquait littéralement puisque c'était complètement légitime, même si c'était pas légal.
Et donc au fond, le MLF, c'est 71. Hein, c'est à partir des années 71, 72, tu vois, ouais. jusqu'à 74. Mais au sein du MLF, c'est la rencontre avec Simone de Beauvoir, c'est la rencontre avec toutes ces femmes qui m'impressionnaient, moi, parce que, je me sentais... J'étais pas politisée du tout quand... quand j'ai fait mes études à Paris. Je veux dire, je pense que c'est le MLF qui m'a...
Et oui, voilà.
Le MLF, et puis bon, d'autres rencontres. Hein. Des rencontres aussi... On était un peu maoïste à l'époque aussi, tu vois. Mais moi, je me sentais surtout engagée en tant que femme. Voilà. Pour moi, mon engagement politique, c'était un engagement de femme. Et je pense que je le portais aussi au nom de ma mère. Mais vraiment, je sentais que... Pour moi, cette révolte, c'était quelque chose qui venait de loin et que je portais de ma grand-mère, de ma mère. Et je crois que c'est aussi la raison pour laquelle t'en es totalement partie prenante.
Est-ce que ça s'apprend, être féministe ? Je pense qu'il y a sans doute des configurations plus favorables que l'autre. Hein. Moi, c'est vrai que je suis née dans une famille athée depuis des générations et même des parents bouffeurs de curés. Donc, je suis pas baptisée, donc pas de communion, pas tout ça. Moi, j'avais pas ça, pas cette pression dans ma famille. J'avais pas toute cette représentation de la femme, la virginité, enfin toutes ces choses qui sont au cœur quand même des inégalités hommes-femmes, telles en tout cas qu'elles se sont structurées au fil des siècles. Hein. Donc, avec ce contexte, c'était effectivement plus favorable pour moi. Que j'imagine pour des filles qui devaient rompre d'une certaine façon avec toute l'idéologie familiale, en tout cas pas l'idéologie, mais en tout cas toutes les croyances, toutes les convictions familiales, toutes les habitudes, ce genre de situation, si les parents étaient très très pratiquants, très observants, etc., que ce genre de situation pouvait créer. Donc la situation était favorable. Et puis, comme j'ai fait des études, et on sait bien que quand on fait des études supérieures, on est moins exposé, même s'il y en a encore qui le sont, bien sûr, aux stéréotypes, à la reproduction des choses que quand on n'a pas fait d'études supérieures. Donc ça aussi, ça prédispose. Et puis, moi, j'ai travaillé très, très jeune. J'ai commencé à travailler vraiment à 21 ans hein, et je n'ai jamais arrêté. Donc là également, y compris quand j'ai eu des enfants, j'ai jamais arrêté de travailler. Alors, c'est vrai que j'ai un métier faisant de la recherche qui est suffisamment souple pour que... je sais pas comment... Parfois, je me disais, mais comment font les filles qui sont, par exemple, coiffeuses, qui sont debout du matin au soir et pas question de manquer une demi-journée Donc, c'était, je dirais, des circonstances favorables, mais vous avez aussi, avec des circonstances comme ça, des gens qui n'évoluent pas dans la même direction. Donc, c'est pas toujours évident pour tout le monde, selon ce qu'on vous a raconté depuis quand vous êtes toute petite, de faire tel engagement, de contracter tel engagement ou tel autre. Hein.
Mais par rapport à mamie, alors tu disais que... Oui, alors c'est sûr que mamie, elle a été femme au foyer avec 4 enfants.
Oui.
Mais dans quelle mesure tu as l'impression qu'elle t'a transmis quelque chose du féminisme ?
Alors...
Toi, t'es née en 45.
Oui. Mais maman a été consciente très tôt... De sa propre réflexion sur la vie, sur les rapports avec avec son mari, hein. On sentait qu'en elle il y avait des potentiels très forts de se réaliser elle-même. Alors elle nous a élevés, ses deux filles, elle nous a élevés déjà comme les garçons. Il n'y avait pas... moi, je ne sentais pas vraiment de différence. Enfin, si tu veux, on ne s'écrasait absolument pas devant les garçons. On recevait la même éducation. Et donc, ça, c'est quelque chose qui m'a marquée. Et puis, elle nous a fait passer, à Christine et à moi, elle nous dit... Enfin, moi, j'ai vécu ce qu'elle nous a dit de vivre. pensez à vous, ayez un métier, soyez indépendante. Ouais, ouais. Et ça, c'est quelque chose qui... Et ne vous mariez pas.
Elle, tu te souviens qu'elle elle disait
ah
ça?
Oui, elle nous a dit ne vous mariez pas. Et Christine ne s'est pas mariée. Moi, j'ai jamais... Mais c'est quelque chose sur lequel j'étais totalement arc-boutée. Le mariage, pour moi, mais c'était une aberration. Ouais, donc, ouais. Voilà, la première chose, de dire l'échec de ma vie, c'est de m'être mariée. Voilà, j'aurais pu faire autre chose de ma ouais. vie, des études. Elle rêvait que de ça. Elle était allée jusqu'en classe de seconde. Elle avait appris le latin, la culture grecque. Et je crois qu'elle aurait eu envie vraiment de continuer. Elle était passionnée par ça. Elle écrivait très bien. Elle était douée. Voilà, elle était douée. Elle faisait de la peinture. C'était vraiment quelqu'un qui avait envie de faire quelque chose de sa vie.
Mais elle a fait partie de ces femmes qui, justement, n'ont pas du tout pu vivre leur vie, etc. Donc, je ne sais même plus en quelle année c'était l'histoire du carnet de chèques ou, tu sais, d'avoir son propre compte.
Exactement, elle n'avait aucune indépendance financière. Elle n'est jamais allée à la banque. Elle avait un carnet de chèques, mais c'est mon père qui le gérait. C'est-à-dire qu'elle avait aucune indépendance financière.
Ouais, donc quand même, elle vous
Il lui mettait de l'argent dans le secrétaire, tu vois. Chaque semaine, elle lui mettait de l'argent. Le secrétaire, puis elle était obligée de...
Moi, je n'ai pas le souvenir qu'on m'ait transmis dans mon enfance quelque chose du féminisme. Pourtant, dans ma famille, il y en a eu des femmes fortes et indépendantes. Un peu par la force des choses, mais pas seulement. Rita, ma grand-mère paternelle, qui s'est retrouvée veuve à 55 ans, et a tenu d'une main de fer un hôtel-restaurant de 23 chambres pendant 10 ans, et qui plus tard fera fi des regards des approbateurs quand elle faisait un peu trop la fête avec ses copines. Ou Marthe, ma grand-mère maternelle, qui a perdu son fiancé pendant la guerre, fusillé, qui a perdu ses deux premiers enfants en couche avant d'avoir ses deux filles, Annie et Laurence, ma mère.
Tout de suite après la guerre, elle s'est mariée. Donc en 1946, elle a perdu un enfant en 1947, en 48, après Tata est née en 50, moi en 52, et notre papa est mort en 53. Donc elle s'est retrouvée très vite veuve, et puis elle était très courageuse, elle avait déjà toujours travaillé dans le commerce jeune à Thonon, donc par rapport à beaucoup de femmes d'ici, elle avait déjà son indépendance financière, elle avait... voilà, elle ne dépendait pas. Même quand elle s'est mariée, elle nous disait que donc, notre papa travaillait à la fabrique là, de limonade. Et donc, c'était le grand-père qui gérait tout. Il avait deux fils qui travaillaient avec lui. Et voilà, il donnait de l'argent quand lui, il avait, s'ils avaient fait un bon truc et tout. Ils n'avaient pas à l'époque des salaires. Voilà, donc, ma maman, très vite, elle avait dit à notre papa, moi, je n'ai pas l'habitude de vivre comme ça. Moi, j'ai l'habitude d'avoir mon salaire. Donc, je vais prendre des enfants pour avoir mon argent.
Garder
des enfants. Et elle a eu très vite les enfants de l'hôtel du Palais des Papes à Avignon. Donc, ils avaient 7 enfants. Et elle les gardait tout l'été. Donc, voilà, ça lui faisait un petit revenu. Et quand elle a été veuve, eh bien, elle a tout de suite dit, je vais prendre des pensionnaires. Parce que, bon, les enfants, ça devenait quand même une responsabilité. Puis, il y avait nous deux, quoi. On était petites et elle avait fait deux chambres au-dessus, il y avait une grange. Donc elle a commencé tout doucement quoi, avec deux chambres. Et puis après, quand la voisine a vendu, donc ça c'était en 58, elle a dit qu'elle s'en allait, qu'elle vendait. Mais elle a dit, ça je ne peux pas le laisser passer, ça m'apporte. Il y avait plusieurs chambres en haut, il y avait 5 ou 6 chambres, une grande salle à manger... Elle a acheté ça, elle s'est endettée et voilà, elle s'est mise à faire la cuisine. Elle a pris des petites jeunes filles ici pour l'aider. Elle a commencé comme ça, tout doucement, sa pension de famille. Et puis après, elle a grandi et voilà.
Et donc, elle a jamais parlé de se remarier parce qu'elle était veuve très jeune.
Oui, elle était jeune, donc elle avait 34-35 ans, oui. Et oui, plus tard, quand on lui disait tout, elle nous a toujours dit, de ce qui nous amusait d'ailleurs, qu'elle avait jamais voulu... Non, elle ne voulait pas d'un homme. Elle avait eu l'habitude de gérer son porte-monnaie toute seule et qu'elle ne voulait pas quelqu'un qui mette le nez dans son porte-monnaie. Donc, elle préférait être toute seule. c'était une femme de tempérament, on va dire. Parce qu'elle n'avait pas eu de tempérament et de poigne, elle n'aurait pas pu faire ce qu'elle a fait, hein, ça c'est sûr.
Des femmes qui travaillent, justement. Ce sera l'un des terrains de prévention du planning à ses débuts, l'entreprise.
Moi, j'avais 15 ans en 68, et donc je suis tombée dans la marmite du militantisme assez jeune, et je fais partie de ceux qui ont décidé à cette époque-là de ne pas devenir des bourgeois, donc de ne pas aller à l'université, d'aller travailler.
Béatrice Ouin, syndicaliste CFDT, spécialisée dans l'éducation sexualisée en entreprise.
C'est comme ça que j'ai d'abord commencé en usine, puis j'étais pas très maso, donc j'ai assez vite opté pour des emplois de bureau, parce que j'avais la chance d'avoir passé mon bac, et quand on avait son bac en 72, on trouvait au chèque postaux d'abord, et à la caisse d'allocation familiale de la région parisienne, dont je vais vous parler maintenant, ensuite. Alors, à l'époque, c'était une boîte de 7000 salariés, dont 80% de femmes, dont la moitié avait entre 20 et 30 ans. Donc je suis une de celles-là. Et donc en 77, après mon deuxième congé maternité, réalisant que dans cette boîte j'allais devoir y rester, je suis allée adhérer à la CFDT. Mais à cette époque-là, je ne savais pas qu'il y avait un accord qui date de 74 entre la CFDT et le MLAC pour l'éducation en entreprise, l'éducation sexualisée en entreprise. Moi, quand j'arrive à la CFDT en 77, à ce moment-là, dans cette boîte, commence une grande grève de 66 jours. Pendant la grève, j'ai découvert les collègues de la CFDT. Jusqu'à présent, mon rapport à la boîte était vraiment alimentaire. Et là, je suis devenue une militante et ils ont découvert, eux, mes collègues, que je savais faire fonctionner une Renéo, taper sur un stencil, parler en public. Bon, j'étais une recrue qui avait fait ses classes ailleurs, mais qui était utilisable. Et donc, à la fin de la grève, ils m'ont proposé d'être élue au comité d'entreprise. Et depuis très longtemps, la CFDT demandait à ce qu'il y ait une commission planning familial au comité d'entreprise. Le problème, c'est que les élus du comité d'entreprise étaient toutes des femmes de l'âge de ma mère qui avaient adhéré à une organisation qui s'appelait la CFTC et qui avaient choisi cette organisation parce qu'elles étaient chrétiennes. Et donc, la Confédération pouvait dire qu'il fallait créer une commission planning familiale. Elle ne se sentait pas de le faire. Voilà. Donc, mon arrivée dans l'équipe a changé la donne. Et du coup, le comité d'entreprise a voté un budget. Oh, pas grand-chose, 0,1% du budget du comité d'entreprise. Mais ça faisait 25 000 francs à l'époque. Et avec ça, on décide d'aller louer au planning l'exposition sur laquelle il y avait un diaphragme, et puis le dessin où ça se met, un stérilet, et le dessin où ça se pose, une plaquette de pilules, des préservatifs. Et puis, le plus important, je crois, c'était les plaquettes d'information avec adresse et numéro de téléphone. À l'époque, la caisse d'allocation familiale, c'était 5000 personnes au siège, mais c'était le début de ce que c'est devenu la départementalisation, c'est-à-dire qu'on avait des unités de gestion dans tous les départements de la région parisienne qui sont devenus maintenant des CAF. Donc je me vois avec la voiture du comité d'entreprise aller à Marne-la-Vallée, à Nanterre, à Saint-Quentin-en-Yvelines pour passer 2 heures à l'heure de la cantine avec cette exposition. 13 unités de gestion, 13 semaines. 13 semaines de solitude intense. Parce que je suis là, devant la cantine, avec mon exposition, et je fais peur aux collègues. Les seules réflexions que j'entendais, c'est « Ah, c'est comme ça, un stérilet ?» Et puis, à la fin, quand je repliais mes gaules et que je m'apprêtais à partir, une nana qui venait demander « C'est pour ma sœur, tu peux me donner le numéro ?» Par contre, un souvenir beaucoup plus rigolo, parce que ça c'était un peu plus de l'agit-propre, lorsque le film de Yann Lemasson, Regarde, elle a les yeux grands ouverts, est sorti en 1980, on a décidé là, dans le hall de l'immeuble où il y avait 5000 salariés, d'apporter un téléviseur, puis je vous rappelle, ils n'étaient pas des écrans plats à l'époque, et un magnétoscope, et ce n'était pas encore la VHS. Donc voilà, l'équipement pour passer la bande-annonce. Et alors là, Il n'y avait pas non plus de parole, mais il y avait beaucoup de silence, mais beaucoup de monde, parce que sur cette bande-annonce, il y avait un avortement, un accouchement, et toutes ces femmes n'en avaient jamais vu, même le leur, enfin tout ça a été très médicalisé, et là, dans ce film, c'était pour réhabiliter la naissance à la maison, enfin la réhabiliter la prise de pouvoir des femmes sur leur sexualité. Et dans les services, l'après-midi, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. Mais alors, la direction nous a convoqués pour nous engueuler parce qu'on n'avait pas demandé l'autorisation et on ne l'avait pas demandé parce qu'on ne l'aurait pas eu. Bon, bah, tout ça pour vous dire que ce n'était pas facile. Et je pense que si on recommence aujourd'hui à faire ce genre d'information, ce ne sera pas plus facile. Je crois que le plus important de cette expérience, c'est d'avoir laissé dans chaque lieu de travail, sur le panneau du comité d'entreprise, l'adresse et le téléphone du planning.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur
à l'avortement.
Il suffit d'écouter les femmes.
C'est toujours un drame et cela restera toujours un drame.
En 1975, loi Veil autorisant la pratique de l'avortement avant la 10e semaine de grossesse. Ce délai est passé aujourd'hui à 12 semaines. Alors ce qui est intéressant, ce que j'ai découvert d'ailleurs récemment, c'est que cette loi a été votée pour un temps déterminé. C'est une loi qui au début était en vigueur pour 5 ans. Parce que, bien sûr, on s'imaginait qu'une loi aussi révolutionnaire aurait probablement détruit la société, envoyer une société française à la ruine. Donc il a fallu un deuxième vote pour confirmer la loi Veil, et je pense que c'est un bilan sur la portée révolutionnaire de cette loi qui était à nouveau vraiment avec la loi sur la contraception. Je pense que c'est vraiment un moment historique extrêmement important et autour duquel des femmes de toute génération, voire de toute couleur politique, de toute conviction, de toute croyance, se sont retrouvées parce que, à nouveau, je repense à cette vieille dame sur le côté du cortège. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas eu le choix et pour qui, justement, il a fallu supporter quand même des contraintes qu'elles n'avaient pas forcément choisies.
Actuellement, celle qui se trouve dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe,
la loi
le rejette non seulement dans l'opprobre, la honte
et
la solitude, mais aussi dans l'ennuiement et l'angoisse de poursuite. Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive,
combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse?
Combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient un si grand besoin?
Combien sont-ils?
Nous ne pouvons plus fermer les yeux sur les 3-7 000 avortements qui chaque année mutilent les femmes de ces pays,
qui
humilient ou traumatisent celles qui y ont recours. L'histoire nous montre que les grands débats qui ont divisé.
L'histoire nous montre que les grands débats qui ont divisé un moment les Français apparaissent avec le recul du temps comme une étape nécessaire à la formation d'un nouveau consensus social qui s'inscrit dans la tradition de tolérance et de mesure de notre pays. Je ne suis pas de ceux et de celles qui redoutent l'avenir.
Thank you.
C'était Virginie, Virginia, Simone et moi, un documentaire d'Isabelle Stragliati. Première partie, histoire et transmission. Avec Véronica Noceda, Françoise Laurent, Janine Moussu-Laveau, Mireille et Émilie Valla, Daniel Gaudry, Laurence Stragliati, Béatrice Soin. Lecture, Merci Almoni, Aurora Sigartao. Musique et création sonore issue des compilations Fairplay 1 et 2. Sassy Hertz, Sophie Lacaze et l'ensemble Elios, Fatrasson, Chantal Dumas, Loïse Bulot. Réalisation, prise de son, montage, Isabelle Stragliati. Mixage, Michel Créis. À suivre la deuxième partie, Être féministe aujourd'hui.